Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'échanger avec Antonin Bonnet, le chef du restaurant Kinsou et propriétaire de la boucherie Grégoire à Paris.
Ça me plaît encore beaucoup d'être derrière le fourneau, même si aujourd'hui c'est important de transmettre. Donc j'essaye de reculer, mais c'est pas une évidence, et de laisser donc aux jeunes talents, aux personnes qui ont vraiment une volonté de vouloir s'exprimer, de laisser faire en fait. Donc j'essaye d'embaucher des talents et j'essaye de laisser suffisamment de place pour que ces talents puissent s'exprimer de façon pleine en fait.
Chef aussi discret qu'engagé, Antonin Bonnet marque de son empreinte sensible l'univers de la restauration parisienne. Après des années à l'étranger et un poste en vue de directeur des projets de la Jeune Rue, il a pensé ses affaires comme il l'entendait, c'est-à-dire comme des lieux vertueux aux fondements éco-responsables forts. Produits, assaisonnements, décors, services, dans son restaurant étoilé comme dans sa boucherie Grégoire, tout est d'une justesse rare. Produits, assaisonnements, décors, services, dans son restaurant étoilé comme dans sa boucherie Grégoire, tout est d'une justesse rare. Avec Antonin, nous avons parlé avec Zen d'éducation aux clients, de vide, de goût et de se faire du bien. Bonne écoute. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Tu viens d'ouvrir, c'est étonnant, non pas une annexe, un bar à vin ou un bistrot annexe, mais une boucherie. C'est pas forcément un rêve, c'est venu comment ?
Un petit peu par accident en fait, on a eu une livraison de viande, de carcasse d'agneau pour être précis, qui était livrée à la boucherie au lieu d'être livrée au restaurant, et on s'est rendu compte avec le temps que c'était plutôt pratique. Ensuite, de pouvoir faire sa boucherie du coup à la boucherie, c'était encore plus pratique. Et puis donc après quelques mois de dépannage de la part de la boucherie, je suis allé le voir, j'aurais posé la question. C'était pas une évidence pour eux ni pour moi au début, et puis finalement ça s'est fait. Donc il a fallu une année et demie de tractation quand même pour en arriver aujourd'hui donc à la boucherie.
Donc la boucherie Grégoire qui est à deux pas de porte, restaurant Kinsou. Ton objectif a été de remettre du bon sens dans ce métier, dans ce secteur d'activité, et de travailler avec une éthique rare en remettant au centre le produit, que des bêtes de producteurs, des produits de saison. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu as fait?
J'ai eu un grand moment de doute, je vais le dire d'abord. Et j'ai dit oui pour la boucherie, puis d'un coup je me suis dit, mais tu es en train de faire une énorme bêtise, une énorme connerie, laisse tomber, la boucherie c'est trop compliqué. Un, c'est pas ton sérail, deux, c'est une grande responsabilité. Et j'ai pas envie de l'assumer, mais je me posais vraiment des vraies questions, mais si je l'assume, c'est dans quel sens? Et puis finalement, je me suis dit, si c'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre va le prendre. Et ou pire, la boucherie va disparaître. Et donc, je me suis dit, si tu le prends, prends-le avec tout ce qui vient avec. Donc, lis un peu, renseigne-toi et essaie de voir comment tu peux essayer de faire les choses d'une façon peut-être un peu plus, pas honnête, mais droite. Voilà. Et donc, on a essayé de vraiment travailler avec des petits producteurs en direct, avec un cahier des charges qui est lié sur la nature des sols, l'alimentation, le biotope, les races, en fait remettre du bon sens tout simplement dans la boucherie. Donc on n'est pas là pour réinventer la roue, on est loin de ça. On n'est pas là pour remplacer les grands noms de la boucherie non plus. On est là pour essayer de faire les choses comme on sent qu'on devrait les faire. Voilà. Et encore remettre les animaux, l'élevage au centre de la boucherie.
Ce qui est assez rare finalement aujourd'hui à Paris, quand tu vas dans une boucherie, t'as pas le nom du producteur. Et même quand je suis venue, ce qui m'a un peu étonnée et qui devrait pas, c'est que ton poulet, tes morceaux de poulet, tu vois qu'ils ont été coupés. C'est pas des blancs qui arrivent déjà tout coupés, des cuisses toutes faites.
On a décidé autre chose et c'est difficile parce qu'il faut l'expliquer beaucoup aux clients. On fait pas de rachat de pièces. Donc, on prend des demi-carcasses entières, ou en demi, ou en quart. Et du coup, des filets de bœuf sur un bœuf, j'en ai deux pièces. C'est 3% de l'animal. On peut décrire tout l'animal comme ça, mais on va pas aller jusqu'au bout des choses. Et donc, il faut qu'on apprenne aux clients qui viennent dans nos boucheries qu'il y a une limite, en fait, et qu'il faut tout consommer. Alors, à partir de là, on les aide un peu, on fait des préparations bouchères, on fait des pâtés, on fait des terrines, on fait des boulettes, on fait des steaks, on fait des saucisses. On fait beaucoup de choses pour pouvoir consommer l'animal dans son intégralité et donner un sens, en fait, à la boucherie.
Ça paraît être la base, mais c'est vrai que ça avait été oublié et traité comme ça aujourd'hui.
Je pense que ça a été oublié pour des raisons diverses, économiques, on va dire. Il a fallu aller plus vite, il a fallu gagner de l'argent aussi. Faut être honnête, faut appeler un chat un chat. Donc c'est pas une évidence aujourd'hui. On est au début de l'histoire, donc on a beaucoup de travail en fait.
Et tu sens que les gens ils ont du mal à consommer les morceaux oubliés encore. Tu disais effectivement il y a que deux filets dans un bœuf. Est-ce que
En fait on a facilité la consommation en fait. Donc on a poussé la consommation sur tout ce qui va vite en fait. Le poêlage, le grillage, toutes les pièces tendres. Et on oubliait que de temps en temps, la France quand même, c'était le mijotage, c'était les cuissons lentes, c'était des morceaux qui se prêtaient à ça. Les pot-au-feu, les blanquettes, même les tourtes. On faisait des tourtes avant, on faisait plein de choses. Voilà. Donc, ça prend un peu de temps. Est-ce qu'il faut réapprendre à consommer? Peut-être que c'est le moment, oui, de poser les vraies questions. Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande? Non, je pense pas. On va pas dire des gros mots, mais non, je pense qu'il faut manger de tout. C'est important.
Faut pas devenir vegan.
Vegan, c'est à la limite, hein, aujourd'hui. Moi, je veux bien manger du steak de tofu, mais le tofu, c'est quel impact sur l'environnement? Faire pousser du soja en masse avec tout ce qu'on a rajouté dedans pour donner du goût. Je veux bien, hein, mais je pense à la limite. Et puis, physiologiquement aussi, c'est une limite. Tous les gens qui sont véganes aujourd'hui ont des carences. Je sais, ils vont crier. Ah. Mais il y a plein de véganes qui retournent au fait qu'il faut manger un petit peu de protéines animales. On s'est toujours détaché du fait qu'il fallait sacrifier les animaux. De plus en plus. C'est la vision moderne aujourd'hui, c'est ça. Mais depuis la nuit des temps, on a couru derrière pour les attraper et les manger. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a pu développer de l'intellect. C'est pour ça qu'on a pu développer les cerveaux qu'on a, c'est pas en mangeant des légumes par la racine, malheureusement. Il faut un équilibre des choses. Je mange pas de la viande tous les jours non plus. J'en mange en quantité raisonnable. Par contre, j'en mange de la très très bonne. Ça, c'est une certitude. Je fais très attention.
Et avec le restaurant, ça te permet de mettre en place, enfin, ça t'a permis de mettre en place aussi un système de zéro gaspillage. Si tu peux utiliser des parties dans le restaurant, d'autres parties dans la boucherie. Faire des préparations bouchères, comme tu disais.
Aujourd'hui, on a utilisé tout l'art qu'on avait mis en place, en fait, et tout le lard aussi, qu'on avait mis en place au restaurant, donc au service de la boucherie. Et donc, la boucherie, en fait, répète les schémas pratiques et techniques, en fait, qu'on avait mis en place au restaurant. Donc, forcément, toutes les carcasses de volaille, on les récupère. Toutes les chutes, toutes les parures de viande qui nous sont nécessaires pour faire les jus et les sauces, donc, ce qui est le bonheur de la cuisine quand même française, on le récupère, on s'en sert. Pour nous, il y a pas de déchets. Tout a une valeur et tout est utilisé en fait dans l'animal, au maximum. Alors il nous reste bien sûr quelques morceaux de suif, des morceaux de gras qu'on peut pas passer, des chutes qui sont vraiment oxydées, qui sont pas mal. Mais vraiment, on rentre dans un pourcentage qui est epsilon, qui est vraiment minimal.
Avant, t'achetais ces parures justement.
Alors avant, on achetait ces parures, ouais. On était obligé de les acheter parce qu'on n'en avait pas forcément assez. Aujourd'hui, on est autosuffisant.
Est-ce que ça vient de ton enfance auprès d'une maman éleveuse de chèvres, je crois?
Alors je pense
ce goût des produits et de la viande de
Alors je pense le bien penser paysan, ouais, je pense que ça vient de ma partie de vie en fait dans les Cévennes à la campagne avec ma maman où forcément quand on a de la terre, des animaux, un élevage et qu'il faut pour se nourrir aller dans le jardin ramasser des légumes ou ces légumes pour manger un lapin aller au clapier et le sacrifier quand c'est la saison des agneaux et des chevreaux s'occuper de ceci et faire les deux cochons à l'année pendant l'hiver donc tout ça donne il y a un vrai sens déjà par rapport à la vie et par rapport à la mort par rapport à la responsabilité à l'animalité. Ensuite, la consommation de l'animal dans son entité. Les lapins, on récupérait même les peaux. Sur les chevreaux, c'est pareil, on récupérait vraiment tout.
Quand t'étais enfant?
Quand j'étais enfant, on récupérait vraiment tout.
T'avais vu tout ça?
J'ai vécu tout ça. On récupérait le sang, on le versait dans une écuelle avec des morceaux de pain écrasés, un peu d'ail et une goutte de vinaigre. On faisait la sanquette. Tout était vraiment utilisé et tout était un délice parce que tout tombait à des moments précis, à des cuissons précises, à des plats précis et à des saisons encore beaucoup plus précises. Et tout ça, ça reste ancré dans la mémoire et c'est super important. Donc moi, quelque part, la boucherie, c'est une continuité de ça. Enfin, c'est indirect. Maintenant, on y réfléchit, on en parle. Oui, c'est ça.
Et la cuisine, c'est venu comment quand t'étais enfant?
La cuisine, je pense, je suis né dedans. Ma grand-mère, mes tantes lyonnaises. Moi, à 3 ans, on tue des casseroles en train de touiller mes tripes à la mode de Caen.
Pas n'importe quel
pense,
plat.
Ouais, je pense que j'ai dû tomber dans le chaudron quand j'étais petit, voilà, donc, pour faire court.
Et donc, tu t'orientes après, à quel moment professionnellement?
Sorti la 3e. Au retour de mes études aux États-Unis, je fonce dans l'IS hôtelier, ouais.
Et ça t'a tout de suite plu?
Ouais, ça m'a tout de suite plu. Ouais, non, c'était
technique et d'être dans le dur, en fait.
D'être dans le dur, d'être dans le concret, de se retrouver face à des valeurs objectives. Oui, c'était bien. Alors, l'ambiance a pas toujours été au top, hein. On repart quand même 25 ans en arrière. Le contexte n'est pas le même qu'aujourd'hui. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, c'était moins doux. C'était moins doux il y a 25 ans que ça l'est aujourd'hui, quand même. mais je regrette rien, non. Non, non.
Et il y avait des chefs que t'admirais quand t'as commencé à cette époque?
Pas vraiment, ça a mis du temps. Je pense que la première personne que j'ai vraiment admirée et que j'admire toujours, bon, ça c'est un peu mon deuxième père, hein, c'est Michel Brasse. Voilà, bon, on va pas le... un sacré bonhomme.
Et avant donc t'es allé travailler chez lui, mais avant t'as travaillé à Lousteau de Beaumanière.
Lousteau de Beaumanière, la Tonnelle des Délices avec les frères Géda, à Cuers. Et chez Péquet, à Lyon.
Et c'est vraiment chez Brasse que tu as eu la révélation?
C'est le premier qui m'a donné une vraie trousse à outils culinaires, en fait. Donc, c'était des techniques, c'était des méthodes, mais c'était surtout un état d'esprit. Et ça a permis d'ouvrir, de faire beaucoup de choses, en fait, d'être très flexible intellectuellement et de pouvoir rebondir techniquement, donc intellectuellement, et avoir une réaction au produit unique, en fait.
Et avoir une autre dimension, enfin,
avoir une autre dimension aussi humaine, parce que le traitement de l'humain là-bas c'était juste incroyable.
Ensuite, t'as eu le désir d'aller voir ailleurs, t'es parti aux États-Unis.
Alors après, j'ai fait des voyages en intermittence aux États-Unis, ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait d'autres pays où on faisait bien les choses de façon différente, avec un autre professionnalisme, mais c'était vraiment incroyable, une vraie découverte. L'Angleterre aussi, l'explosion de la cuisine, de tout ce qui était la gastronomie anglaise, donc des années 90 jusqu'à 2013. Et ça, c'était incroyable.
T'es resté longtemps là-bas?
15 ans.
15 ans, ouais. T'as fait 3 étoiles Michelin, The Oak Room.
Oui.
Et The Greenhouse, là, t'étais chef.
Là, j'étais chef, 7 ans.
Première place de chef.
Alors non, ma première place de chef, c'est au Morton's Club, donc qui est un club privé, pendant 2 ans et demi. J'ai aidé un petit peu pour l'ouverture de Umu, à l'époque, qui est un restaurant japonais qui a 2 étoiles maintenant. Et après, j'ai fait mes 7 dernières années, donc, au Greenhouse. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une étoile et d'en attraper une deuxième. Et donc, on a couru très fort, tous, pour en avoir une deuxième, et c'est pas été facile, voilà.
C'est parti. Et ensuite, t'es revenu à Paris travailler sur l'aventure du sergent recruteur et de la jeune rue.
Ouais, tout à fait.
Comment ça s'était fait avec, t'avais rencontré Cédric Naudon?
Alors, Cédric est venu me rencontrer, donc, à Londres.
Il t'avait choisi,
On a beaucoup discuté. Ouais. On va être honnête, on s'est choisi l'un l'autre. Ouais. Je l'ai écouté. Ce qu'il m'a dit, il m'a plu à l'époque. Moi, ce que je lui ai raconté, ma vision de la gastronomie que je voulais faire à partir de maintenant, c'était quelque chose qui le bottait. Il m'a montré le projet qu'il avait. Il m'a montré qu'il y avait Raimayon, qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? C'était couillu. Mais bon, il y a un moment dans la vie, il faut rêver. Prendre des risques. Il faut, en anglais, ils disent take a chance. Si tu fais rien, tu n'as rien. Si tu peux pleurer toute ta vie et vivre de regrets, ou te dire, j'ai tenté. Si ça a planté, ça a planté. C'est pas grave. Elon Musk, le premier jour, il a dit, moi, je vais envoyer une fusée sur la Lune et elle va réatterrir. Tout le monde lui a ri au nez. Sauf qu'aujourd'hui, il y est arrivé. Bon, lui, il a réussi. On ne sait pas combien il a planté de milliards non plus, de dollars. Voilà. et ses comptes sont pas tout roses non plus, hein, c'est pas une évidence. Aujourd'hui, le sergent recruteur était plutôt une super idée, ça marchait, ça cartonnait. La jeune rue, ça partait d'un bon principe, d'une bonne idée, avec beaucoup de collaborateurs qui étaient vraiment des génies, exceptionnels. Donc il y a eu un bouillonnement d'idées quand même pendant un nombre d'années qui était incroyable. On a ouvert des portes qui n'existaient pas, on a poussé des boutons où il n'y avait pas de branchement qu'il a fallu faire. On a tenté des choses qui n'existaient pas, on a utilisé un vocabulaire qui n'était pas en place à l'époque. La naturalité n'existait pas, Ducasse l'utilise, et beaucoup d'autres choses. Donc oui, il y a eu des travers, mais comme toute start-up, c'est-à-dire ça part, il y a une grosse ébullition, il y a des choses qu'on ne surveille pas forcément. Ça a peiné beaucoup de monde, ça a planté. On a perdu de l'argent, c'est vrai, mais à coup pas. Pas tout le monde a joué franco. Je vais pas citer de nom parce que c'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de citer quand même qu'au travers de tout ça, même si on a perdu beaucoup d'argent sur une entreprise, c'est énorme. Si on prend sur la scène parisienne et où les idées ont servi, c'est un peu moins d'argent. Si on prend sur la scène française, sans vouloir se glorifier, ça représente plus grand chose. Et je pense que ça a servi bien à tout le monde ce qui s'est passé sur la jaune rue. Les gens se sont rendus compte que on pouvait faire des choses. Il y avait une capacité à penser différemment. Et ça, quelque part, c'était presque le plus important.
Ça a ouvert les esprits.
Ça a ouvert les esprits à beaucoup de gens. Ça a permis à des petits producteurs de se dire, même moi, si je suis au fin fond du trou du cul du monde, bah, peut-être que j'ai une chance aussi de produire quelque chose d'exceptionnel et de le valoriser. De se dire que des petits restaurants avec des concepts un petit peu émus pouvaient se dire, bah, moi aussi, je peux peut-être exister. Et je pense que ça a permis un peu à libérer toute cette scène qui était vraiment, quand je suis arrivé en 2012, je la trouvais coincée. Elle était serrée sur elle-même. Elle avait un gros potentiel. Elle avait un potentiel énorme. Et personne osait sortir de son petit truc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque l'inverse. Ils sortent trop. Freinez les mecs. Voilà.
Toi, t'as été peiné aussi.
Bien sûr que ça peine.
Que ça fonctionne c'est... pas. Enfin, j'imagine que tu t'étais beaucoup investi.
Je déménage ma famille. Je déménage ma vie. Je perds de l'argent aussi. Ok, à titre personnel, pas directement, mais indirectement. Au moment où tout va bien, il y a 150 collaborateurs, il y a 4-5 restaurants ouverts, on est en train d'en ouvrir 2-3 dans la volée tout de suite, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien, c'est le vide. Alors c'est le vide physique, intellectuel, moral. Voilà, donc ça, c'est pas facile. À côté de ça, beaucoup de chefs ont été solidaires, m'ont appelé, m'ont demandé s'ils pouvaient m'aider d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'était exceptionnel.
Et t'as choisi de te retirer, de te mettre à l'écart pendant 2 ans quasiment.
Un an.
Après,
il y a eu un an et quelques mois. Enfin, un an après le temps de lancer le projet, 6 mois, donc c'est ça.
Mais t'avais besoin de...
Il fallait que je réfléchisse sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire, en fait.
De prendre du recul.
Enfin, prendre un peu de recul, voilà. Et puis, avec toutes les propositions que j'ai eues, en fait, il a fallu que je fasse des calculs, aller voir, visiter les gens, essayer, passer du temps, discuter, pour s'apercevoir que finalement, ce dont j'avais vraiment envie, c'est un petit chez moi, en fait, tout simplement.
Plutôt
qu'un grand chez les autres.
Et donc, il n'est qu'un sou, Kinsou.
Ouais, Kinsou.
Kinsou, petit oiseau.
Petit oiseau, donc c'est un petit retour aux sources, voilà, pour faire court.
Donc, en 2016,
oui.
Et c'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est l'anti-sergent recruteur. Je sais pas si c'est fait exprès, mais
c'est, alors non, c'est le sergent recruteur, c'était magnifique, mais il y avait un côté un peu bling bling quand même. Et bling bling, c'est pas forcément moi, voilà. Donc sans être complètement austère, ni je préfère le côté minimaliste, voilà. Alors après, ça veut pas dire que le côté minimaliste ce soit pauvre. Il faut savoir regarder dedans ce qu'il y a, voilà. Non, on n'est pas là. Je porte pas de chaîne en or qui brille. J'ai pas un sac Gucci ni Prada. Voilà.
Non, mais c'est vrai que ça te ressemble plus ici. Enfin, on te sent plus en phase avec toi-même ici, en tout cas. Et c'est vrai que tout ce que vous avez fait avec la jeune rue, enfin, tout n'était pas bon acheté parce que t'avais commencé à réfléchir à tout ce sens, sur le sourcing des produits et sur aussi la cuisine, enfin la cuisine que tu voulais faire.
Alors, Donc la première idée, en fait, dans la jaune rue, c'est elle devait pas être aussi grande, ça devait pas être aussi important. Après, c'est parti en délire, on va être honnête. Mais si on a pu travailler avec un boucher, c'est utiliser une partie de l'animal. Le très très haut de gamme partait dans le restaurant gastro, le milieu de gamme pouvait partir dans une brasserie, et la troisième gamme, on aurait pu faire un restaurant d'abat, par exemple. Aujourd'hui, ils ont St. John's à Londres, c'est magique ce qu'ils font là-bas. Donc c'était l'idée première. Tomber sous un bon sens, en fait, une synergie, en fait, entre les lieux. Et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et au travers de ça, essayer de faire travailler une sorte d'économie interne pour donner un sens, en fait, à la consommation. Ce qui était vraiment quand même assez ambitieux, on va dire. Voilà.
Après, t'as pas pu revenir à une cuisine conventionnelle ou traditionnelle qui ne prenne pas en compte cette sensibilité au sourcing, et ça a découlé ta cuisine aujourd'hui qui est vraiment axée sur les fondamentaux. Ouais.
Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est présent en Australie, qui est présent en Nouvelle-Zélande, qui est présent aux États-Unis avec différents acteurs. Et je trouvais dommage qu'en France, elle soit si peu représentée. Et donc, j'ai rien inventé. Moi, j'ai lu, j'ai regardé, je me suis renseigné. J'ai des copains qui travaillent à l'étranger, dans d'autres endroits. Donc, et je me suis dit, si eux, ils y arrivent, on devrait pouvoir le faire. Et ça tombe quelque part. Pour moi, c'est naturel, en fait. J'ai vu des excès aussi. J'ai trouvé dans des restaurants où on commandait 5 filets de bœuf. On taillait l'avant, on taillait l'arrière. On prenait le centre et le reste. Je ne dis pas que ça partait à la poubelle, mais c'était pas... On s'en occupait pas
ça
vraiment.
Ça se fait encore, hein, dans certains
établissements. Je veux pas le savoir. Non, mais je veux pas le savoir. C'est, ouais. C'est oui, chacun voit midi à sa porte. Mais pour moi, c'est juste pas possible. C'est insoutenable. Aujourd'hui, quand on lit les chiffres, de la consommation mondiale, surtout, hein, c'est le juste, on a marché
énorme,
sur la tête. Ouais. On est dingue. Et même en faisant attention, même en faisant gaffe, c'est dingue. Donc, enfin, ce que je fais, j'estime que c'est un minimum. C'est le minimum syndical pour que je puisse accepter de faire mon travail.
Quand t'as ouvert Kinsu, ta cuisine, t'as voulu l'axer sur un retour aux fondamentaux, aux produits, cuisson, assaisonnement, enfin, et enlever tout le superflu.
En fait, c'est un peu le lieu qui a dicté, en fait, la cuisine. Donc, il y a eu plusieurs choses. Le produit. Ensuite, la technique, il a fallu qu'on s'adapte. Le lieu est tout petit, exigu, donc il a fallu qu'on s'organise. On n'était pas nombreux, et donc il a fallu qu'on aille à l'essentialité. Donc le nombre d'opérations est limité sur chaque assiette, pas parce qu'on le veut, mais parce que on le doit. Il y a un modèle économique, c'est 30 places assises, il y a tant d'employés, ça fait tant de mains pour tant d'assiettes, et donc il a fallu. C'est des calculs qui se sont faits très rapidement. Si au début on faisait 7 plats, 8 plats le soir pour le menu dégustation, et on finissait à 1h30 du matin, 2h, c'était juste mais impossible pour tout le monde. Donc on a baissé, on est passé à 5 plats, avec un tout petit peu plus à manger dans les assiettes, et on en met un petit peu moins de détails. Pas parce que on le veut, mais parce qu'il y a un moment, l'excès de détails fait que ça prend plus de temps. Ça casse la fluidité du service, et quand on a un pass qui fait 1 mètre sur 1 mètre, on peut mettre un maximum de 9 assiettes, c'est tout. Et sur ce pass de 1 mètre sur 1 mètre, on fait les entrées, les desserts, les plats chauds, et donc il faut qu'il y ait un flow qui soit très régulier d'envoi, et pour la cuisine et pour la salle. Et donc on peut pas bloquer le service. Si on bloque le service, ça le plante. S'il est planté,
les gens sont pas contents.
on peut discuter 5 minutes, mais après 5 minutes, ça devient compliqué, effectivement. Ouais.
Qu'est-ce qui guide ta cuisine?
Le goût. La gourmandise, le goût d'abord.
Ouais. Il y a un axe dont tu m'avais parlé qu'on avait fait une interview il y a longtemps. C'était aussi l'envie de prendre le mot restaurant au pied de la lettre et de faire du bien aux clients qui se sentent mieux en sortant qu'en entrant.
Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Moi, j'ai des souvenirs de repas gastronomiques où, complètement dans l'excès, on ressort du repas et on est défoncé, qu'on n'en peut plus, on est au bord de sa vie. Bon, après, si on a décidé de boire, c'est un choix, mais quand on finit le repas, qu'on a mangé les 7, 8, 9, 10 séquences, 12 séquences, et que, entre l'équilibre des plats, la quantité de matière grasse, etc., on est au bord de sa vie, physiologiquement, enfin, pour moi, c'est éprouvant, quoi. Et je me suis dit, quitte à le faire, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de le rééquilibrer, en fait? Alors, je fais pas parce qu'il faut le faire, encore une fois, que c'est la mode. Ça se fait aujourd'hui de façon naturelle, et on essaie d'avoir un repas où on mesure la quantité de protéines dedans, on mesure la quantité de féculents. On essaye qu'il n'y ait pas du gras de partout. On essaie d'équilibrer, en fait. Donc, c'est un jeu entre le goût, les textures, les volumes, la qualité et les quantités de protéines. Et c'est pas toujours une évidence, en fait. Mais à un moment, on sait quand on dépasse et quand il faut changer.
Plus de légumes aussi, peut-être, ou plus de
plus de légumes, de mais ça, je pense que c'est normal.
Et le travail aussi sur les additifs et la pureté des produits que tu utilises, qui sont sourcés au maximum, ouais, en direct, ça compte aussi dans.
Ça change, ça change fondamentalement le goût des aliments, en fait. On a une clarté, on a une brillance dans le goût, une rémanence qu'on n'aurait pas avec d'autres produits.
Et nutritionnellement, c'est...
Bah, nutritionnellement, là, on fait de nos mieux, sachant qu'à partir du moment où l'animal est tué, on perd tout de suite des vitamines, des oligo-éléments, etc. À partir du moment où on les cuit, on en perd encore plus. Et à partir du moment où le temps défile, on en perd encore plus. Donc, c'est une lutte contre le temps, c'est une lutte pour le goût, la préservation du goût. Et au maximum des valeurs nutritionnelles. C'est pas une évidence. Ok, je peux pas dire que dans ma nourriture, il y a plus de micronutriments et de vitamines que dans les autres. Mais on essaye de notre mieux, au moins pour que ça goûte, au moins déjà, d'une façon claire et précise. Voilà, ça.
Et ouais, tu fais un travail vraiment hyper important de fou, j'allais dire, sur le sourcing pour éliminer au maximum les intermédiaires et les
alors le but
agroalimentaire.
Le but au travers de ça, alors l'agroalimentaire, oui, parce qu'à un moment il y en a marre. Enfin, faut que les gens comprennent, c'est que quand on mange des produits qui sont pas sains, en fait, on s'empoisonne. Donc, il y avait un mot qui est un peu dur, un jeune homme, on dit, c'est un viol quand même. On se permet de se nourrir, donc de faire entrer directement dans notre bouche, en fait, des produits qui sont pas adaptés à l'organisme, tout simplement. Et après, on se dit, je suis pas bien, je suis malade. Bah, il y a un moment, faut pas être sorcier, ni sorti de la cuisse de Jupiter. Si on mange des produits chimiques, on a des chances d'être malade, tout simplement. Les intrants, l'agro-industrie, c'est de la chimie. Si on essaie d'en manger, c'est qu'on a accepté d'en manger. Donc, on a accepté d'être malade, point barre. Alors, ne pas en manger, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y en a absolument de partout. Et il faut avoir une vigilance complètement dingue pour les éviter. Sachant que même aujourd'hui, avec les produits bio, maintenant, il y a une acceptation du niveau de produits phytosanitaires. Donc, c'est devenu complètement super dingue. Donc, même en mangeant bio aujourd'hui, on n'est pas sûr de manger sain. C'est dur.
Et pour l'approvisionnement, le beurre, le sucre, tu vois, tous ces produits aussi qui
alors,
sont...
on essaie de faire notre mieux, on n'est pas à 100%, je pense qu'on doit être à 75-80% de là où on voudrait être. Tous les jours, on essaie un peu plus, mais c'est très très dur. Les gens comprennent pas forcément, on peut pas vraiment le négocier en valeur marchande, donc on peut pas dire aux gens, bah tu vois, ici c'est 100% propre, du coup tu vas payer 25% de plus en ticket, le mec va te regarder, va faire, tu sais quoi, c'est... ouais... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que t'es vraiment sûr? Donc ça c'est difficile aujourd'hui. Ouais. Ça c'est vraiment très dur. Mais sans intrants, sans additifs, oui, au maximum, il faut le faire. Il faut le faire, c'est important. Est-ce que ça goûte moins? Parfois oui, parfois non. Il faut être clair avec soi-même. Est-ce que ça coûte plus cher de produire sans intrants? Oui, il faut être honnête. Est-ce qu'aujourd'hui on paye le vrai prix pour la nourriture? Non, c'est sponsorisé par les États, par nos impôts. Faut pas se leurrer. Enfin, je pourrais faire la grande boucle, mais ça prend un peu de temps, là, si je la fais économiquement parlant. Mais on sponsorise, en fait, le fait de payer des aliments peu chers. On le sponsorise au travers de nos impôts, on le sponsorise au travers de notre santé, on le sponsorise au travers de l'écologie, on le sponsorise au travers voilà, beaucoup de choses.
On a pris l'habitude aussi de effectivement de payer moins de payer moins pour la nourriture et de payer plus pour d'autres choses.
Oui, mais on a payé ça, moins parce que les marchés de consommation étaient nécessaires, donc il a fallu booster les consommations. Pour booster la consommation, on a baissé les prix, on a moins payé les producteurs. Les producteurs, comme ils sont moins payés, qu'il faut qu'ils vivent, reçoivent des subventions de l'État, qui sont payés par qui? Ils sont payés par nous. OK. Donc on mange des produits qu'on a fait pousser, donc, à coup d'antibiotiques, à coup de chimie, pour que ça aille plus vite, pour qu'on ait des volumes plus rapides, des turnovers plus rapides, à des prix moins chers. Ces produits sont malades, qu'on mange, qu'on ingurgite, avec ou non les produits phytosanitaires à l'intérieur. Ça nous rend malade. On va chez le médecin, on dit qu'il est malade, il nous file d'autres produits phytosanitaires pour nous, pour qu'on se sente bien. Okay. Et la boucle est bouclée, on est au top. Je veux dire,
on est plein de produits.
On a défoncé la terre, on s'est défoncé nous, on a défoncé la vie d'un mec qui a fait pousser des poules, des lapins ou des poulets ou des cochons. Il est pas bien dans sa peau parce qu'il sait qu'il a fait de la merde. On a défoncé les enfin bref, c'est un gros délire le truc.
Ça s'améliore, t'as l'impression?
Bah il y a une grosse problématique, c'est qu'il faut quand même nourrir beaucoup de monde aujourd'hui. Donc moi c'est facile, je suis dans mon petit micro, je me permets, je suis dans une position privilégiée, je peux me permettre de manger ce type d'aliments. Est-ce que tout le monde peut? Non.
Il y a
un gros travail à faire et il est au-delà. Donc
il y a une prise de conscience.
Il y a une grosse
même.
Prise de conscience.
Tu disais que c'est depuis une dizaine d'années.
Ça bouge.
Tu vois, dans la restauration, les gens sont de plus en plus sensibles à ça et par transmission, les clients aussi. Même si c'est effectivement une clientèle privilégiée, ça avance un petit peu.
Ça avance un petit peu, mais. Aujourd'hui, ça avance un petit peu pour une partie de la population, donc on va dire l'élite quand même, la partie qui peut se le permettre, mais une grosse partie qui en ont pas conscience et qui ne peuvent surtout pas se le payer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Ça, c'est une deuxième question, ça. Ça, j'ai pas la réponse.
Dans ta cuisine, tu gardes des touches, pas du coq à l'âne.
Oui, non, vas-y.
Tu gardes des touches un peu, enfin pas fusion, mais des touches fusion. J'ai envie de.
Oui, on peut appeler
dire,
ça comme ça.
De,
ouais.
de passage de tes expériences à l'étranger.
Ouais, complètement.
Un petit peu de ce soja, dans la vinaigrette pralinée, la
Tout
salade
à fait.
De choux.
Il y a de temps en temps, il faut quand même mettre un peu de piment dans sa cuisine parce que sinon ça va. Pas que ça va être compliqué, mais pour moi, c'est un peu mes voyages. C'est aussi une partie de ma famille, ma culture. Aujourd'hui, ma femme est sud-coréenne, donc il y a une partie de la cuisine sud-coréenne qui émerge. Le Japon, parce qu'avant de connaître la Corée, j'ai eu une partie d'influence japonaise.
À Los Angeles, notamment?
Peu à Los Angeles, et puis ayant travaillé à Londres et développé le projet avec Umu, donc j'ai travaillé un petit peu avec des chefs japonais. Voilà, donc de temps en temps, il y a quelques influences qui viennent de l'extérieur, un peu d'Afrique du Nord aussi, de temps en temps, le Maroc aussi, où j'ai fait 2-3 voyages. Ça fait partie des petits trucs de Kinsu aussi.
Est-ce que t'as la création facile?
Oui, désolé, faut le dire, oui, plutôt.
T'es pas du genre à plancher sur ta feuille blanche?
Si, il y a des jours où c'est quand même plus facile que d'autres, on va être honnête. Il y a des périodes qui sont très prolifiques. Des fois, même je relis des choses que j'ai faites il y a 10 ans et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai écrit tout ça. Donc, je m'en resserre. Mais il faut lire, hein. Faut lire beaucoup. Plus on a de chance de venir avec des idées ou ce qu'on pense être une idée nouvelle. Souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas d'idée nouvelle, c'est souvent du recyclage intellectuel qui rentre en confrontation avec des produits. Des fois, vous dire d'où ça vient, j'ai aucune idée. Ça vient juste, c'est comme ça. On
tu
va mettre ça avec ça, avec ça. Beaucoup de livres de cuisine. En ce moment, c'est beaucoup de livres de management, assez hétéroclite. Donc, j'ai un nouveau challenge. Il faudrait que je puisse lire 10 livres par mois, ce qui est pas beaucoup.
Pas mal, quand même.
Il faudrait que je puisse en lire un peu plus, en fait.
Tu fais une cuisine du cœur ou de la tête?
Les deux, en général.
J'ai une tradition dans ce podcast, une interview dans l'interview que j'appelle aller-retour.
Ouais.
Il faut que tu répondes du tac au tac.
D'accord.
C'est un peu le moment fun.
Ouais.
Ton âge?
48.
Ton signe astrologique?
Balance.
Ton plat signature?
Il n'y a pas de plat signature, il y a un style signature.
Qu'est-ce que c'est alors?
C'est le style, je sais pas.
Le style.
Non, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de plat signature.
Ton plat préféré à manger?
Une bonne tranche de pain avec un peu de beurre et de la rosette de Lyon.
Le chef que tu admires le plus?
Michel Brasse.
Ton ingrédient préféré?
Je pense que c'est les petites pommes rates que ramassait ma maman sous le poirier.
Très précis.
Ouais, non, c'est important la précision parce qu'en fait, la précision amène les souvenirs.
Et t'as jamais retrouvé ce goût-là?
Non, c'est des pommes de terre qui étaient grosses, plus petites que le doigt, en fait. On les mettait dans un seau avec de l'eau et du gros sel et une pomme de pain. On tournait la pomme de pain à l'intérieur pour les éplucher. On transvidait l'eau 2-3 fois pour enlever les peaux. Et ensuite, on les retire tout simplement dans une poêle avec une bonne cuillère de graisse de canard. Le truc pas bon, quoi, en fait.
Ton ingrédient détesté?
J'en ai pas, je pense.
Ton ustensile fétiche?
C'est un couteau d'office. Bah, je peux tout faire avec.
Ton dernier meilleur repas?
C'était au Pays Basque. Mon dernier meilleur repas, et c'était chez Il fait tour au tir au feu de bois.
Ah oui, Etchebarri, non?
Etchebarri, ouais. Oui, avec Bitor, avec Etchebarri.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Je m'accroche pas vraiment après ça.
Et la pire critique?
La pire critique, c'est quelqu'un qui a vraiment pas aimé, qui est passé un mauvais moment, quoi, c'est
t'as,
ça.
T'as pas et qu'on puisse... une personne qui t'a marqué particulièrement, ou un chef qui t'a critiqué.
Non, pas vraiment. Non, parce que avec les chefs, en fait, je pense qu'on a vraiment ce qu'on s'aime. Ça dépend de la relation qu'on veut avec les chefs. Aujourd'hui, je touche du bois. Même si on n'est pas toujours d'accord, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Je veux dire, à un moment, il faut être professionnel. Il peut arriver de faire des mauvais repas chez les gens. Il peut arriver que ça, qu'on soit pas du même avis. Mais après, ça reste, c'est tellement subjectif. Et puis, encore une fois, il y a des jours où on passe au travers. Quand on va manger chez quelqu'un, il faut y aller plusieurs fois pour se donner une vraie idée. Si on y va une fois et qu'on a foiré le repas, ça peut arriver de foirer le repas. Si on y va trois fois et que trois fois c'est foiré, là, on peut commencer à se dire, bon, c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà.
T'es très présent derrière les fourneaux. Ça te plaît encore de cuisiner?
Oui, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît encore beaucoup d'être derrière le fourneau, même si aujourd'hui, c'est important de transmettre. Donc, j'essaye de reculer, mais c'est pas une évidence, et de laisser donc aux jeunes talents, aux personnes qui ont vraiment une volonté de vouloir s'exprimer, de laisser faire, en fait. Donc, j'essaie d'embaucher des talents et j'essaie de laisser suffisamment de place pour que ces talents puissent s'exprimer de façon pleine, en fait. Sinon, ça vaut pas le coup.
C'est
ça
dur.
Rien. Oui, c'est pas évident. Il y a beaucoup de frustration. Des fois, on se dit, je ferais bien comme ça. Et pourtant, il faut laisser faire. Il faut les laisser faire des erreurs. Il faut qu'ils se cassent la figure pour qu'on puisse les relever, qu'on puisse en parler ensemble, pour qu'on puisse les construire, en fait. Il faut les laisser faire des erreurs. Mais c'est pas facile.
Tu prends en considération leur, enfin au niveau de la créativité, elles apportent des choses. Enfin, je dis elles parce que c'est vrai que t'as trois filles.
Alors aujourd'hui, on
là.
Dit elles parce que j'ai trois filles en cuisine, mais c'est la création se fait à trois. Il y en a une qui s'occupe plus des légumes, et etc. Et une qui est plus sur le poisson, qui va connaître ses stocks aussi. Et puis Sophie, qui elle est vraiment en charge. On va dire c'est l'ancienne. Elle, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Qui elle connaît les recettes, connaît les habitudes, sait ce qui marche, sait ce qui fonctionne, sait ce qui me plaît aussi. Parce qu'il faut garder l'esprit Kinsou. L'idée, c'est qu'elle puisse reprendre derrière, mais qu'elle puisse garder aussi l'identité, le style de la maison, et qu'elle puisse s'y développer à l'intérieur. Le jour où elle voudra faire autre chose, il faudra qu'elle fasse son propre truc. Ça, c'est une certitude. Oui. Mais aujourd'hui, non, je suis plutôt bien avec ça. Ça se passe, c'est un bel échange, et c'est le samedi après-midi, par exemple.
Et tu me disais, donc, c'est la première fois que tu as 3 filles dans ta cuisine, donc c'est quasi par 75%.
75%, ouais. Donc, il n'y a pas de parité, ok.
Il n'y a pas de parité dans le...
Non, il y a 3 filles, c'est la première fois, c'est pas par effet de mode, c'est juste parce que c'est tombé comme ça. Voilà, et aujourd'hui, il y a 3 filles parce qu'elles valent leur place, elles sont compétentes, elles sont professionnelles, elle bosse dur et elle bosse bien, voilà.
Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ton quotidien?
On rigole beaucoup. C'est l'humour, c'est la camaraderie, c'est le plaisir de pouvoir cuisiner des choses qui sont bonnes, donc qui ont du goût, dans une ambiance détendue, avec des gens qui sont intellectuellement motivants, ce que j'appelle des gens qui sont beaux, en fait, qui sont beaux. Il n'y a pas que le physique, hein, qui sont beaux, c'est des belles personnes. Et ça c'est génial de pouvoir travailler dans un milieu aussi riche, en fait.
3 étoiles en 3 fois.
Ouais.
Ça fait quoi cette reconnaissance des guides?
Ça fait énormément plaisir parce que ça veut dire qu'avec des équipes diverses et des idées diverses, on a réussi 3 fois de suite, en fait, à gagner cette étoile, donc avoir un niveau, on va dire culinaire, qui est très satisfaisant, qui est quand même c'est un super plaisir.
Et c'est important dans la vie d'un cuisinier, dans l'ego d'un cuisinier, la reconnaissance des guides.
Alors, je veux dire, la première, oui. La deuxième aussi, même si à partir de la deuxième, on essaie de courir pour une deuxième étoile et puis on n'y est pas arrivant, ça peut casser le nez, je pense. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. La troisième n'était pas voulue. Elle était là parce qu'on a mis des choses en place qui nous tenaient à cœur. Donc, pour notre cuisine, vraiment, pas parce qu'on voulait paraître, parce que juste on était. Et ça, je veux dire, c'était la plus valorisante, ça a été la plus appréciée aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, il vaut mieux être soi-même, faire sa cuisine et être honnête, avec soi-même. Hein. Être honnête, c'est dans ce sens. Hein. Aujourd'hui, il faut plutôt être honnête avec soi-même et faire sa cuisine et au travers de ça pouvoir glaner une étoile, plutôt de faire le chemin inverse, essayer vraiment de courir pour l'étoile et éventuellement au travers de ça essayer de faire sa propre cuisine. On n'y arrive pas en fait. On finit souvent les fesses assis entre deux chaises, c'est pas très stable, c'est dur parce que ça nous ressemble peut-être pas forcément, tandis que dans le schéma inverse on fait quelque chose qui nous ressemble et du coup c'est pas forcé en fait, on essaie pas d'être, on est simplement, voilà.
Est-ce que tu te souviens quand tu t'es senti chef pour la première fois?
Non, je me souviens pas du tout. Non, je me souviens du jour où ils m'ont donné la position de chef. Et là, je me suis dit, ouais, bon, hop, là, c'est parti. Oups, il va falloir assumer.
À Londres?
C'était à Londres. Mmh. C'était au Morton's Club et je passais de second, en fait, ma place précédente à chef de cuisine avec trois niveaux de cuisine différents, 20 cuisiniers, enfin, un truc de dingue, quoi.
Ton quotidien a changé?
Complètement, le niveau de responsabilité a changé, le niveau d'échange, les rendez-vous, les meetings, les rapports, les emails à écrire.
Tu cuisinais plus.
Je faisais plus la cuisine, c'était dingue. Voilà.
Et aujourd'hui, tu...
Aujourd'hui, c'est de nouveau dingue parce qu'être entrepreneur, être son propre patron, vient aussi avec son niveau de responsabilité. Et si on veut bien faire les choses, il y a une partie assumée. C'est la compta, c'est les ressources humaines, c'est la communication, c'est beaucoup beaucoup de choses qui nous éloignent malheureusement du fourneau et ça c'est une réalité.
Tu te présentes comment toi, chef, cuisinier, restaurateur? Tu te sens comment?
Aujourd'hui, je suis devenu restaurateur. Je suis cuisinier avant tout, mais restaurateur. Il faut que je puisse liaiser avec la salle, m'apercevoir qu'ils sont à l'aise, que au niveau des vins, on soit en adéquation avec la carte, que en cuisine,
de partout.
Il faut être de partout. Voilà, on n'a pas le choix. C'est essentiel et compétent.
Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui?
Qu'est-ce qui me fait courir? L'envie de bien faire quand même, l'envie de faire plaisir surtout.
Bon, l'interview touche à sa fin et oui. J'ai une autre tradition, c'est de demander une recette facile à faire à la maison au chef que j'interviewe.
Je vais te raconter ce qu'on a fait l'autre jour à manger, ce qu'on fait nous pour le personnel, parce que nous, des fois pour le personnel, bien. On se fait à manger. Le jour, on s'est fait une épaule d'agneau, donc on a pris une épaule d'agneau classique, frottée de sel, frottée d'ail, et dans une cocotte qu'on a chemisée de foin, on a mis une bonne rasade d'huile d'olive, on a mis le couvercle, et on l'a enfourné dans un four à 250 degrés pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on a baissé notre four à 180, on a enlevé le couvercle, et là, on l'a laissé griller pendant 20 minutes. Une fois qu'elle était bien colorée, on a regardé, on a remis le couvercle, et là, on a baissé le four à 140 degrés, et on l'a laissé encore 30 minutes. Alors, je sais, ça fait beaucoup de 30 minutes.
Oh, ça a l'air trop bon, surtout. J'essaie d'imaginer pendant que tu expliques.
Après ça, on a sorti la casserole du four, et on l'a laissé mourir dans la casserole.
Reposer?
Ouais, mourir, reposer, elle s'est détendue, elle a fait son jus. Et tout simplement, c'était délicieux. Donc là, c'est la méthode la plus, on va dire, facile pour cuire une épaule d'agneau sans forcer et avec le minimum d'intervention, en fait. C'est les 3x30.
Et si on n'a pas de foin, on peut mettre quoi?
Si on n'a pas de foin, on peut mettre des feuilles de figuier. La feuille de figuier, c'est quand même génial avec l'agneau. Ça donne un côté noix de coco exotique alors que c'est juste au coin de la rue. Un gros bouquet de romarin, ça marche très très bien. C'est très variable. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Ça marche tout. Enfin, quelque part, tout fonctionne. Il faut vraiment que ce soit chemisé, tapissé dans le fond, ça c'est important. Ça va protéger du fond de la cocotte.
La viande.
Ouais. Et ça va la parfumer, mais à fond, quoi. Il faut être dans l'excès, en fait. Voilà.
Merci Antonin.
Merci beaucoup.
C'était Antonin Bonnet dans la saison 3 d'À Poil. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous dans son restaurant Kinsou ou à la boucherie Grégoire, tous deux situés rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e arrondissement parisien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kinsou.fr. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Pour ceux qui découvrent le podcast, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé par Studio Ochenta, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.